Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans Côté Club, studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, 116 avenue du Président Kennedy. C'est l'adresse de toute la scène française et plus ses affinités. 22h, 23h, à podcaster évidemment. Ce soir, programme pop et rock avec Pablo de Moodoïd et Dominique Tarlet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Dominique Tarlet, vous avez vécu 6 mois avec les Rolling Stones à la Villa Nelcote à Villefranche-sur-Mer sur la Côte d'Azur. C'était en 1971, pendant la conception de leur double album culte Exile on Main Street. Et vous avez tout shooté. On peut retrouver quelques-uns de vos tirages dans le livre Les Rolling Stones et Nelcote, en attendant fin mai une exposition à Nice et un autre livre, La Villa. À vos côtés, Pablo Padovani pour son projet Moodoïd, avec un EP de duo exclusivement féminin. Prima Donna volume 1 est sorti aujourd'hui. Marion ?
Vendredi, jour de sortie, 3 nouveaux sons à découvrir dans Côté Club, le rock garage de Ponta Preta, la variété dadaïste de Streaker et la pop rêveuse de Météo Mirage.
Voilà, vous savez à peu près tout, maintenant on entend tout, c'est garanti. Bienvenue au club.
Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec votre choix playlist, Pablo Padovani de Moodoïd, dont vous a fait bosser. On vous a donné la playlist de France Inter et vous avez choisi François and the Atlas Mountain. Peut-être un mot sur ce choix.
Ouais, parce que pour François, c'est un ami à moi et en fait, j'ai commencé un peu mon parcours de musicien avec Moodoïd à ses côtés, en fait. Tout simplement, on a des parcours qui se sont croisés, des musiciens avec qui on a joué en commun, David Numoimi et d'autres. Et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose où on sort des albums un peu au même moment depuis 10 ans. Et à chaque fois, on se retrouve. Donc,
vous avez partagé des scènes ensemble aussi?
On a partagé beaucoup de scènes. On a fait toute une tournée à Doco Plateau sur le premier album. Et même on a vécu ensemble, pour être tout à fait honnête.
Ouais. Ben voilà, mais on saura tout. Padovani, je vous présente Dominique Tarlet. Dominique Tarlet, il est photographe de la scène rock des années 70, plutôt anglo-saxonne, uniquement anglo-saxonne.
Oui, en fait, moi j'étais surtout passionné par les groupes, c'est-à-dire ces gamins qui se réunissent.
Vous aviez le même âge qu'eux ? Non, plus jeune.
Un petit peu plus jeune, ouais, oui.
Pas tellement. Hein.
Deux, trois ans en général. Hein. Mais ce qui était passionnant, c'était de voir des gamins qui décident de se réunir pour faire de la musique ensemble. Et c'est aussi le côté artisanal du groupe. C'est-à-dire que en France, on avait des artistes qui faisaient appel à des compositeurs, des arrangeurs, un producteur, etc. Alors que là, on se retrouve avec des gens qui vont composer leur musique, écrire leurs paroles, leurs textes, enregistrer leurs albums et donner leurs concerts.
Ouais, c'était pas du tout la même histoire. En France, c'était la période yéyé. On n'était pas yéyé, j'ai l'impression.
Oui. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Oui, c'est pas mon truc. Et donc,
Bah, vous les avez tous photographiés.
Bah oui, je suis parti en juillet 1968. J'ai réussi à convaincre mes parents que je devais améliorer mon anglais en prenant des cours à Londres.
Et vu ce qui se passait en France, ils se sont dit, tiens, c'est un bon garçon, il veut poursuivre ses études.
Oui, c'était l'époque de mai 68.
Bien sûr.
Ça a foutu la trouille à mes parents, ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, mon choix de partir prendre des cours à Londres et donc pratiquer l'anglais dans la vie quotidienne, ils ont accepté. À ma grande surprise.
Donc, je peux imaginer. Et dès que vous arrivez là-bas, vous vous précipitez dans les, pubs, sur la scène.
Moi, c'est comme j'ai pas énormément d'argent de poche. Il est évident que le circuit musical des pubs. À l'époque, c'est un truc qui est complètement génial. Pour 2 francs 6 sous, tu te retrouves à pouvoir assister à des concerts fantastiques dans une certaine intimité. Il y a quoi, 50, 100 spectateurs maximum.
Et c'est là que vous avez commencé à shooter ?
Oui, bien sûr. Et donc, le premier concert auquel j'assiste au Klux Klick à West Hampstead, c'est un concert de John Mayall. Bon, il a vu défiler tous les grands guitaristes de l'époque dans son groupe, les Blues Breakers. Ce qui me surprend, c'est qu'au milieu du concert, les musiciens posent délicatement leurs instruments et viennent discuter avec les gens qui sont dans le public. Donc moi, au bout d'un moment, je vais vers John avec un petit bout de papier sur lequel j'ai noté mon nom et mon numéro de téléphone. Et je lui dis, bah écoutez, j'aime bien ce que vous faites. Si vous avez besoin de photos, voilà mon numéro de téléphone. Il retourne le papier, il note une adresse, il me dit, demain on est en studio, viens nous rejoindre.
Et ça a commencé comme ça.
Et là,
aujourd'hui, ça serait mais impossible.
Oui, et là, en studio, je rencontre son nouveau guitariste, Mick Taylor, qui va remplacer Brian Jones au sein des Rolling Stones un an plus tard.
Et c'est comme ça que va se faire la légende de Dominique Tarlet, photographe. Vous êtes plutôt Stones ou Beatles ? Parce que lui, il a suivi les Stones. Vous avez aussi photographié les Beatles.
Oui,
vous avez photographié toute cette scène-là. Mais comme on pose toujours cette question à une époque où ça n'a plus aucun sens, pour vous, Moudoïd ?
J'aime les deux groupes, je ne saurais pas trop choisir. En musique, je serais plutôt Beatles, mais en image, je suis plutôt Rolling Stones.
Alors ça, je peux vous garantir. Vous, quelle est votre culture musicale ? Plutôt jazz, comme votre père, Jean-Marc Padovani ?
J'aime beaucoup le jazz, mais moi je viens plutôt du rock aussi, du rock psychédélique et du rock progressif, qui ont été mes premières vraies grosses influences.
Rock psychédélique, vous entendez qui par là par exemple, que vous avez écouté à l'époque ?
J'ai beaucoup écouté Gong, notamment, enfin les Pink Floyd, Gong, tous ces groupes-là, qui étaient un peu plus sur des chansons un peu plus long format. J'aimais beaucoup les chansons qui duraient 20 minutes, c'est vraiment de là que je viens. Et puis après, je me suis ouvert à tout un tas de musiques très différentes, de la musique ambiante à la musique répétitive, au rock, au jazz. Enfin, je suis très ouvert.
Les Pink Floyd, vous les avez photographiés, Dominique Tarlet ?
Ah ben, la première fois où le Pink Floyd est venu jouer en France, c'est moi qui ai organisé le concert.
Wow.
Où ça ?
Au Bourget. En fait, j'avais été contacté par des importateurs d'instruments de musique, surtout américains, français. Hein. Et ils ont décidé d'organiser un festival en région parisienne. Ils ont loué des hangars au Bourget. Et ils m'ont demandé, puisque tu es à Londres et que tu rencontres tous ces musiciens, fais-nous une playlist, vois les groupes qui pourraient venir. Donc évidemment, les Stones et les Who n'étaient pas disponibles, ils étaient en tournée ailleurs, ils avaient déjà des plans. J'avais rencontré le manager des Pink Floyd, on s'entendait bien. Je lui dis, bah là, le Floyd, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Bon, il me dit non, pas grand-chose. Bah, il y a un concert à Paris qui est possible. Ouais, ok. Et hop. Voilà, le Pink Floyd est arrivé à Paris pour la première fois.
C'était vraiment la préhistoire, parce qu'aujourd'hui, mais plus rien ne se passerait comme avant.
Exactement.
Allez, on écoute tout de suite les titres qui ouvrent la face A et la face C de cet unique album studio des Rolling Stones, le 10e Exile on the Main Street. Ouverture de la face A avec Rock Off, maintenant ouverture de la face C avec Happy. Vous étiez sur place pendant la conception de cet album à la Villa Nelcote, dans le sud de la France. On est en 1971. Ça vous évoque des images d'écouter, par exemple, Happy?
Oui, c'était... je pense que c'est vraiment l'une des chansons qui représente le plus l'ambiance, le mode de vie des Rolling Stones à cette époque-là. Mick vient de se marier à Saint-Tropez avec Bianca. Anita et Keith sont vraiment au septième ciel, et donc Mick Taylor vient d'avoir un petit enfant avec sa compagne. C'est vraiment une chanson qui traduit l'atmosphère du groupe
à cette époque-là,
en dehors de la musique.
Oui, parce qu'il pouvait y avoir aussi des tensions dans le groupe, on en parlera justement.
Oui.
Alors vous avez passé 6 mois là-bas, chez Keith Richards, parce que c'est lui qui avait loué la maison dans le sud de la France. En fait, quand je dis la maison, une villa absolument sublime.
Un mini-palais.
On resitue quelques éléments. Que font les Stones dans le sud de la France en 71? Un exil fiscal.
En effet, le gouvernement britannique avait décidé de mettre un terme à la carrière des Rolling Stones, qui mettait en avant toute la contre-culture de l'époque. Et donc, quand les Rolling Stones, à la fin des années 60, gagnent 1 livre sterling, après imposition, il leur reste 1 penny. Ils sont imposés entre 98 et 99%. Dans une soirée à Londres, en 69, Mick fait la connaissance d'un aristocrate allemand, le prince Rupert de Lowenstein.
Qui ne connaît rien au rock, hein, qui est plutôt culture classique.
Oui, c'est-à-dire lui et sa femme, ce sont des aristocrates qui ont une culture classique, que ça soit la musique, la littérature, la peinture. Il est évident que le rock'n'roll, ça ne fait pas partie de leur culture.
Et pour autant.
Et le prince Rupert découvre la situation des Rolling Stones, il trouve Mick absolument adorable, et il va s'occuper des finances des Rolling Stones...
Jusqu'en 2007
Jusqu'en 2007, de 1971 à 2007. Et c'est lui qui va dire à Mick, pour sauver le groupe, vous devez vous exiler fiscalement, où est-ce que vous aimeriez aller? Bah, comme beaucoup d'anglo-saxons, allez, c'est le printemps sur la Côte d'Azur, c'est pas plus mal. Et en fait, le prince Rupert va organiser l'exil fiscal des Rolling Stones dans le sud de la France avec un copain à lui, le premier ministre français de l'époque, Jacques Chaban-Delmas.
Exactement.
Non, incroyable.
Qui n'avait pas non plus une culture rock très au poids, mais qui est tombé aussi mais sous le charme de Mick Jagger.
Oui. Ben, s'ils claquent 200 briques par an chacun, on va pas leur fermer la porte.
Combien de photos vous avez prises lors de ce séjour, Dominique Tarlet?
Parce
que vous êtes resté 6 mois.
Oh, oui, oui.
Et tous les jours, vous shootiez.
Oui. Oh, je sais pas, aux alentours de 500 photos.
Jour, le matin, le soir?
En fait, moi... Ce qui m'intéressait vraiment, c'était la relation des membres du groupe avec la musique. C'est ça mon truc, c'est de photographier des musiciens.
Au travail.
Au travail.
Vous viviez sur place.
Oui, tout
à fait. Donc vous avez tout vu.
Oui, toutes les grilles sont ouvertes. Moi, en 6 mois, j'ai jamais vu une porte fermée.
Et c'était pas envahi de fans.
Pardon ?
Et ce n'était pas envahi de fans.
Ah si, il y en avait quand même pas mal. Ouais, ouais.
Ah oui, quand même, en 71, ça représentait déjà quelque chose d'énorme.
Ouais. Il y a des jeunes qui ont entendu parler de la présence des Rolling Stones, personne ne les achetait dehors, ils adoraient être là et écouter de la musique, et puis il y en a qui ont planté leur tente sous les baobabs, etc. Et on savait même pas, dans cette végétation luxuriante, on savait même pas qu'il y avait des gamins qui avaient établi leur camp dans la ville-là.
Puisque vous avez fait des photos de musiciens au travail, quelle était la méthode en fait? Comment ça se passait les séances de travail? Est-ce que c'est Keith Richards qui lançait les opérations de Mick Tarlet?
Voilà, en tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu donc à la Villa Nelcott, c'est que les Rolling Stones se réunissent dans les sous-sols de la villa du lundi soir jusqu'au vendredi matin.
Ils étaient branchés sur la SNCF, c'est-à-dire...
Oui, parce que, en fin de compte, bien sûr, même si c'est une villa gigantesque, l'alimentation électrique n'est pas suffisante pour un groupe de rock. Donc, leur rôdi de luxe, Ian Stewart, avait pris un gros câble, et comme il y avait une ligne de chemin de fer qui passait le long de l'avenue Louise Bord, il avait été branché le câble sur les...
Sur le réseau de la SNCF.
Sur le réseau
sans autorisation,
SNCF.
Bien entendu.
Oui, oui, bien sûr. Évidemment.
Alors donc, ils sont dans leur cave, dans les sous-sols. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Alors donc, ils se réunissent dans la villa vers 7-8 heures le lundi soir. À 9 heures, ils sont au boulot. Keith Richards arrive avec une idée de riff en tête.
C'est ça.
Il va jouer ce riff à la section rythmique, au batteur et au bassiste, Charlie Watts et Bill Wyman. Si l'un des deux, Bill ou Charlie, quitte son instrument pour aller fumer une clope sur la terrasse et boire un petit verre de rosé bien frais, ça veut dire non. Il n'y a pas un mot d'échangé. Par contre, si Bill et Charlie commencent à jouer sur ce que propose Keith Richards, tous les autres appliquent en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'on va foutre là-dessus ?» Et ils vont jouer la même chanson de 9h du soir à 6h du matin pendant une semaine. Les Rolling Stones, à l'époque, c'est 8 musiciens. Il y a donc les 5 Rolling Stones, plus Nicky Hopkins au piano, Jim Price et Bobby Keys au cuivre. Et chacun veut être en mesure de donner le meilleur de lui-même. Et c'est passionnant comme aventure.
Il y a des choses que vous voudriez savoir ?
Non, je trouvais ça très intéressant, le fait qu'il s'arrête sur une chanson pour une semaine, ce processus de travail, il est intéressant.
Oui.
Mais du coup, ils enregistraient aussi au fur et à mesure, ou c'était des répétitions qui finissaient par être enregistrées à la fin ?
Non, pas du tout. L'un de leurs ingénieurs du son préféré, c'était Glyn Johns. Et comme Glyn était occupé ailleurs avec d'autres artistes, c'était son fils Andy Jones qui avait pris les commandes de l'enregistrement. Les Rolling Stones en avaient assez en Angleterre. Tous les groupes de cette époque-là aimaient travailler dans les mêmes studios avec les mêmes ingénieurs du son, etc. Donc c'était vraiment la galère pour pouvoir réserver un temps suffisant un studio qu'on aime bien pour enregistrer un album. Ils en ont eu marre. Ils se sont fait fabriquer sur mesure un camion avec un studio d'enregistrement à l'intérieur. Il suffisait de tirer des câbles et de mettre des micros au bout, et ils pouvaient jouer chez eux,
ils pouvaient s'installer n'importe où, finalement. Oui.
Voilà, et n'importe où. Et ça leur permettait aussi d'enregistrer les concerts, etc.
Alors, c'était un séjour de travail, c'est ce qu'on voit dans les photos, avec des pauses. C'est ce qu'on voit aussi dans les photos, on les voit en train de déjeuner, juste aussi de glander dans les fauteuils. Mais c'est aussi un séjour de plaisir, sous influence, parce que c'est l'époque où Richards prenait quotidiennement de l'héroïne. Un séjour surveillé par les policiers français, qui exerçait une certaine pression même, parce que c'est devenu une sorte de plaque tournante de la drogue à un moment donné.
C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que c'est l'époque de la French Connection dans le sud de la France. La meilleure héroïne au monde est fabriquée dans les environs de Marseille. Et les premiers à entendre parler de la présence des Rolling Stones dans le sud, c'est des gamins. Et quand ils reviennent chez eux le soir et qu'ils disent à leurs parents « J'ai passé l'après-midi chez l'un des Rolling Stones, c'était génial », ils lui filent un petit paxon en lui disant « Bah, s'ils en veulent plus, il y a de quoi ».
Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et voilà. Et d'une manière tout à fait spontanée, naturelle, les gamins reviennent avec des petites friandises et puis ça devient un
trafic. Et même vous, vous avez été suspecté d'être trafiquant à une époque.
Oui, non.
C'était même dans le journal.
Quand je suis rentré de Nellcott, en fait, c'est Keith qui a senti que les choses allaient se dégrader. C'est-à-dire que tous ces gamins qui s'étaient agglutinés aux alentours de la villa, pendant l'été, ça ne posait aucun problème. Puis dans le sud, les parents avaient l'habitude que leurs gosses aillent à droite, à gauche, chez des copains. Par contre, quand les gosses doivent reprendre la scolarité, là, les parents, ils flippent. Et à mon avis, parmi les parents, il y en avait qui avaient des contacts avec la police ou la gendarmerie dans le coin, et qui leur ont dit « mais on ne sait pas où ils sont, ils ont disparu depuis des mois, il faudrait les rechercher ». Et puis, ils vont chez les Rolling Stones, etc. Donc, Keith me dit « Dominique, je pense qu'il est temps que tu retournes à Paris, parce que là... »
Et lui-même, il s'est enfui aussi de la villa. Il est parti, à un moment donné, il a quitté la villa,
parce
qu'il savait qu'il y avait une saisie qui allait arriver.
Il avait garé son magnifique cabriolet Jaguar type sous la fenêtre de sa chambre, de façon à ce que, comme toutes les portes étaient ouvertes, si la police un jour débarquait et pénétrait dans la villa, il sautait par la fenêtre avec Anita et Marlon, et il tombait dans la voiture, et c'est comme ça qu'ils se sont enfuis, ils se sont réfugiés en Suisse, qui ne pratique pas l'extradition, en tout cas à l'époque.
Ces photos, ça a été toute une histoire, parce que bien sûr vous avez tenté de les monnayer ou de les montrer à l'époque, mais oui. Personne n'en a voulu à Paris.
Voilà, oui. J'avais été l'assistant d'un photographe qui travaillait pour une célèbre agence de photojournalisme à Paris. Et il m'a dit « tes photos sont géniales, il faut absolument que je te prenne un rendez-vous avec le boss de l'agence ». Donc j'arrive avec une jolie boîte de 30-40, je les montre au directeur de l'agence, qui replace les tirages dans la boîte, referme la boîte, me l'attend et me dit « jeune homme, soyez gentil, arrêtez de faire les poubelles des confrères ».
Il ne vous a pas cru ?
Non.
Mais parce que ça paraissait tellement énorme.
Oui.
Énorme à l'époque.
Moi, j'étais en contact avec un magazine, un mensuel de rock français. Je leur présente mes photos et le rédacteur en chef me dit « Ouais, elles sont pas mal tes photos, mais demain les Rolling Stones seront ailleurs avec un autre photographe et elles vaudront plus rien. » Et en plus de ça, il y avait une rumeur dans les milieux un peu branchés à Paris, comme quoi si j'étais resté 6 mois chez Keith Richards, c'est parce que j'étais un trafiquant.
Oui, c'est ça.
Évidemment, moi tout ça, ça me... C'est terrible à vivre, hein. Et mon père voit mon désespoir, il me tend son journal et il me dit « Faut que tu te changes les idées, regarde les petites annonces, trouve-toi un job, va faire autre chose, c'est une bande de cons. » Ok, d'accord. J'ai jamais regardé les petites annonces dans un journal, hein, évidemment. Et puis, je tombe sur une annonce « Recherchons agent de trafic ». Ah ben, j'ai répondu, et j'ai été engagé, je suis devenu agent du trafic aérien à Orly.
Dominique Tarlé et Pablo Padovani, vous restez avec nous. Une question, Dominique Tarlé, je sais que vous avez photographié John Lennon, oui. Paul McCartney aussi.
J'ai photographié Paul quand il est venu au... Moi, j'étais plus Rolling Stones.
On a bien compris.
Que Beatles, tout simplement parce qu'encore une fois, j'étais passionné par tous ces jeunes blancs qui étaient se passionnaient pour la musique noire américaine. Voilà. Ce qui n'était pas franchement le cas, évidemment, des Beatles qui étaient dans la pop. Mais vraiment, c'était l'époque, il ne faut quand même pas l'oublier, de Martin Luther King, d'Angela Davis.
Et d'ailleurs, ça se ressent dans la couverture, dans la pochette du disque Exile on the Main Street. Paul McCartney, en tout cas, est en playlist sur France Inter avec Seize the Day, un extrait de son nouvel album. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold. Seize the day. Paul McCartney dans Côté Club. Il est temps maintenant de retrouver Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles.
Côté Club. Pour écouter chez moi, on est dans un club.
Sur France Inter.
C'est du 100% nouveau, j'imagine.
Bien sûr, comme tous les vendredis, Laurent. Avec un clin d'œil au 60s, c'est pour vous, Dominique Tarlet, avec Ponta Preta. Alors, dans un rêve, Ponta Preta, ce serait un nom de plage en Californie. On serait aux alentours de 1968. Pas de Covid, juste des bonnes vibrations et des harmonies vocales au cordeau. Dans les réalités, on est à Lyon. Ponta Preta, ce sont 5 gones convertis au surf, rock, avec une touche de psychédélisme austral. Des vrais gardiens du temple. Vous allez me dire, encore un groupe de garage rock, c'est pas possible. Eh bien, oui, époque bénie, musique chérie. Il y a un revival en ce moment autour de ça. Et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Alors, Ponta Preta n'a peut-être pas inventé la pédale fuzz, mais ce sont des bons mélodies, ils ont le sens de l'accroche, et c'est ce que demande depuis toujours la pop à ses adorateurs. Avec une petite précision de leur part, notre premier album, Tits Up, est idéal pour une sieste, comme pour un road trip au bord de l'océan, au volant d'un van fracassé. On va vérifier avec ce titre. Ponta Preta, I Wanna Know, c'est à retrouver sur leur épatant premier album Tits Up. Ça vous parle, hein, ça, Dominique?
Absolument,
ouais.
Super.
Ouais, c'est le son comme ça, de la guitare surf. Ça marche bien. Alors, on va prendre un virage plus barge du côté de la Suisse avec Streaker. Streaker, c'est le projet de deux frères, Bruce and Erling von Streaker. Bon, dans la vraie vie, hein, c'est Fabien Tarrant et Patrick Dufresne, mais ça sonne beaucoup moins bien, naturellement. Deux drôles de paroissiens formés au classique et au jazz et qui aiment pervertir la pop. Leur nom nous donne un indice. Vous savez ce que c'est un Streaker?
Non. Moi non.
Pas vraiment.
Non, personne. Vous rappelez, est-ce que vous voyez les personnages nus qui déboulent dans, les matchs de foot, voilà, et qui courent comme des dératés avant de se faire expulser? Ben voilà, c'est ça, un Streaker. Et c'est vrai qu'il y a dans leur musique, des faux frères Streaker, un côté attentat ridicule et doux, comme ils disent. Leur but dans la vie est de créer un espace utopique, fragile, sans but, enfantin, ludique, un idéal pour tous les amateurs de variétés dadaïstes.
Tu vois, c'est comme s'arrêter au milieu du toboggan pour prendre un témesta. Tu rates une marche pour entrer dans ton sommeil. C'est léger, vertige. Streaker, coréen tenu, libre et léger, avant de se faire plaquer par un stadier. Streaker, Streaker, coréen tenu, libre et léger, avant de se faire plaquer par un stadier. Streaker.
Le titre, Fleur pute. Leur nom, Streaker. Un EP est attendu pour le 11 juin. Dernier son avec Météo Mirage. C'est un projet qui est porté par deux voix. Celle de Max et d'Alexis, deux amis d'enfance, vite rejoints par trois autres musiciens. Leur envie commune, une musique faite de surprises, sans dogme. Une musique ouverte à l'altérité, au mélange sonore, avec toujours une dimension nuageuse. Météo Mirage est en train de se construire une histoire faite de concerts résolument organiques et de clips à l'esthétique mélancolique. Ils ont trouvé en Adrien Durand, de Bon Voyage Organisation, le partenaire idéal pour mettre en son leur chant du cœur, leurs doutes, la violence du dehors et les changements, comme sur ce titre intimiste dédié à la transidentité.
D'où vient ce flou dans ton regard? Pourquoi ça double dans le miroir? Au fond du reflet, quel est ce corps presque étranger? Il fallait bien se transformer. Transforme. Transforme.
matière à se chercher. Des heures sans rien trouver.
Mais d'où vient ce mal?
L'accord tournait sans s'arrêter. Il fallait bien le renverser.
Transforme.
Météo Mirage, un titre qu'on retrouve sur leur nouvelle EP sortie aujourd'hui. Météo Mirage, lauréat du dispositif de soutien aux artistes Variations du centre FGO Barbara. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que l'appel à candidature pour l'édition 2021 est ouvert. Toutes les infos sont sur leur site.
Côté club ce soir, nos invités sont Dominique Tarlet et Pablo Padovani alias Moodoïd qui revient avec un nouvel EP de duo féminin. Moodoïd, c'est une aventure musicale qui commence en 2014 avec un premier album et ça donnait ça. Je suis la montagne. Quel était le projet de Moodoïd il y a 7 ans, Pablo Padovani? Quel était le son, la signature musicale que vous vouliez développer à l'époque?
Eh bien, quand j'ai commencé, j'avais envie de chanter que des chansons qui parlent des éléments de la nature. Du coup, il y avait un peu une chanson pour chaque élément. Et c'était un peu ma source d'inspiration principale. Je viens de la campagne, j'ai grandi à la campagne, j'ai écrit mes chansons dans la campagne.
Quelle campagne ?
Et je viens du sud-ouest. Mais j'ai écrit ces chansons lors de la fin de mes études, où j'ai vécu en Suisse pendant un an pour travailler sur des films, parce que j'ai fait des études
de cinéma. Ouais.
Et donc c'est dans ce moment-là, en fait, dans les montagnes, que j'ai eu le temps et cette envie de commencer à faire de la musique et de faire mon projet musical qui était en fait un peu une excuse aussi pour faire un prétexte aussi pour faire un univers visuel et aussi faire des clips et des photos et des vidéos.
C'est-à-dire que dès le départ, la musique était associée à une dimension visuelle?
Oui, c'est-à-dire que ouais, Moodoïd, pour moi, c'est vraiment une espèce de projet machine à fantasmes où je peux un peu mettre à bien toutes mes envies un peu artistiques, que ce soit travailler avec des gens ou faire une vidéo ou faire une photo ou mettre des costumes, voilà.
Le nom de Moodoïd est arrivé comment ?
Et c'est venu d'un constat que j'ai fait lors de l'écriture de mes chansons, qui était toujours lié en fait à des moments où en fait je ressentais des émotions très fortes par rapport à des expériences de vie et du coup j'avais envie que mon groupe s'appelle l'émotion bizarre, l'émotion étrange. Mmh. Et voilà, et donc j'ai concentré le mot anglais mood avec bizarroïde, astéroïde.
Et Moodoïd. Voilà. Alors on va écouter dans un instant un extrait de ce EP, donc le nouvel EP, Puissance Femme, c'est le titre, avec Stéphanie Lang. Mais juste avant, je voudrais qu'on écoute ça. Ce son pour les auditeurs, Pablo.
Oui, il s'agit de Saada Bonheur.
Ouais, c'était le groupe des années 80.
Oui, groupe allemand des années 80 qui avait enregistré un album dans le studio de Kraftwerk, un groupe de Bremen. et dont moi je suis, enfin j'ai, en fait j'ai, que j'ai redécouvert avec beaucoup de gens de ma génération, parce que l'album a été réédité par Capture Track il y a 4 ans. Et du coup, en fait, c'est devenu un peu un groupe de référence pour moi et un album de référence, parce que je me suis vachement reconnu dans ce projet, parce que l'idée c'était vraiment d'amener en studio tout un tas de musiciens d'influences différentes, des musiciens de musique orientale, des jazzmen, et de créer une sorte de musique comme ça en rencontrant des musiciens en studio. Et c'est un peu comme ça que je fais ma musique aussi.
Donc vous avez contacté Stéphanie Lang. Aujourd'hui, elle a quel âge ?
Et je sais pas si on a, si c'est très poli de dire l'âge d'une femme de cet âge-là, mais je sais pas. En fait, elle doit avoir 30 ans de plus que moi, au moins.
Ouais, donc une soixantaine d'années, oui, ou un peu plus.
Bon, peu importe. En tout cas, oui, ça pourrait être ma mère.
Pionnière du mouvement LGBT. Ça aussi, ça vous a intéressé ? Quelle est cette dimension politique ?
Oui, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, ça a été d'ailleurs un de nos premiers échanges, parce que lorsque je l'ai contactée, la chanson s'appelle quand même Puissance Femme, et parle donc d'une sorte de femme, enfin d'une présence, d'une sorte d'être magique comme ça. Et du coup, le premier échange a été de comment elle serait positionnée, enfin quelle serait sa position dans sa façon d'interpréter les paroles. Et donc la première chose qu'elle m'a dit, c'est: moi, j'ai envie d'être la femme qui admire cette puissance femme. J'ai pas envie d'être la puissance femme.
Elle chante toujours. Enfin là, avec vous, elle chante, mais elle a continué une carrière musicale.
Et non, en fait, c'est pour ça que du coup j'ai dû aller chez elle, la rencontrer à Bremen, parce que ça fait 30 ans qu'elle n'avait pas chanté. Et je pense que elle s'est prêtée un peu au jeu de ce duo, parce que je pense qu'avec le confinement et tout ça, il y a un peu une période où en fait on s'ennuie un peu. Et du coup, elle m'a dit: écoute, ça pourrait être marrant de le faire. Par contre, j'ai pas de micro, j'ai rien. Et du coup, je suis allé avec tout mon matériel et on a enregistré dans son salon.
Puissance Femme, c'est un extrait de Prima Donna.
Je ne sais quoi qui me transperce.
Puissance Femme, signé Moodoid avec Stéphanie Lang, un revival un peu 80s à travers celle qui chante avec vous. Les années 80, qu'est-ce que ça peut bien représenter pour vous, alors même que vous n'étiez pas né?
Moodoid. Et je suis né en 1989.
Oui,
donc un tout petit peu.
T'es foutu.
Oui, c'est vrai que c'est des années qui me fascinent. Parce que pour moi c'est la croisée un peu entre l'univers, enfin le monde analogique et le monde digital un peu. Et du coup j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'âge d'or du matériel, enfin de la technique. Et c'est un moment donné où du coup il y a l'électronique qui arrive et en même temps les appareils analogiques eux sont au summum de leur performance. Et du coup pour moi ça a donné un moment avec les plus beaux films, enfin avec la plus belle image et pareil en musique, les plus belles productions avec le son le plus impressionnant.
Vous travaillez aujourd'hui avec du matériel vintage?
Du coup avec un mélange, ouais.
Comme bon nombre de vos compatriotes qu'on reçoit ici. Alors les femmes sont très présentes depuis vos débuts sur scène. En 2014, vous aviez un groupe de musiciennes avec vous. C'était plutôt rare ce dispositif à l'époque.
C'est vrai que quand on était en tournée, c'est là que je l'ai vraiment remarqué, parce que à la base, moi, c'était un désir que j'avais de travailler avec des femmes, parce qu'il y avait aussi une équipe technique de femmes qui était avec.
Oui, ça ne s'arrêtait pas simplement aux musiciennes sur le plateau, ouais.
Et en fait, l'accueil était parfois étonnant parce que, en effet, les gens n'étaient pas habitués, les techniciens en tournée ou dans les festivals, les gens n'étaient pas habitués à voir 10 filles arriver comme ça. Du coup, ça a été une belle expérience et une vraie découverte aussi, un vrai exercice de se prêter à ce jeu-là.
Mais pour quelle raison vous vouliez avoir justement cette dimension exclusivement féminine autour de vous?
Parce que, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai joué dans un autre groupe qui s'appelait Melodies Echo Chamber et j'étais le guitariste. Et du coup, j'ai vécu les tournées dans un groupe de rock avec que des hommes et une seule femme qui était toute seule et qui était très isolée en tant que leader de groupe.
Elle était leader et isolée.
Était leader et isolée un peu dans sa position de fille avec que des garçons. Enfin, j'ai connu la même chose un peu étant un seul garçon avec que des femmes. Mais du coup, j'ai eu la curiosité et l'envie de vivre ça à mon tour. En l'occurrence, Moodoid, c'est un projet où moi j'avais envie de mettre en valeur ma féminité. Je suis un peu quand même déguisé sur scène, je porte beaucoup de maquillage et du coup j'avais assez envie d'être dans cet environnement féminin pour moi-même être créer mon personnage.
On va écouter un autre extrait de ce EP, c'est Idéal avec Juliette Armanet qui a longtemps tourné en playlist sur France Inter. On avait la voix grave de Stéphanie Lang, cette fois-ci la voix plus éthérée mais très précise de Juliette Armanet. Quel est le lien que vous faites dans tout ce casting de voix autour de vous, Moodoid, pour cet album?
Qu'est-ce
que vous recherchez dans ces voix-là?
C'est vrai qu'il y a déjà, il y a souvent l'envie, dans Puissance Femme, c'était vraiment très important pour moi d'avoir une voix grave, une voix qui soit imposante. Et pour cette chanson-là, en l'occurrence, je voulais vraiment une voix qui vole, qui soit très légère, parce que ça va aussi dans le thème de la chanson. Mais en fait, ce qui a déterminé ces collaborations, ça a été avant tout juste des histoires humaines et d'amitié et de rencontres aussi. Il y a eu des refus aussi, oui, bien sûr.
Pour quelle raison? Je ne vais pas vous demander les noms, mais pour quelle raison? Quel type de refus on peut donner à ce type de projet?
Je pense que les refus qu'il peut y avoir, c'est juste quelqu'un qui va, par exemple, pas se sentir, pas savoir comment trouver sa place dans la chanson, ou qui ne sait pas comment elle va pouvoir interpréter cette chanson, ou qui ne sait pas où est-ce qu'elle va pouvoir apporter. Ce qui est intéressant avec les filles avec qui j'ai collaboré, c'est qu'il y avait aussi une dimension un peu de carte blanche. C'était ouvert et j'étais moi très heureux qu'il y ait un échange et que on puisse dire les paroles ça va pas, on change ça, ou enfin tous les duos ont des histoires différentes, mais en tout cas j'étais vraiment à la recherche moi de gens qui pouvaient aussi s'impliquer, et je voulais pas du tout que ça soit juste un arrangement entre guillemets, de faire un featuring. C'était pas du tout l'idée de cet album.
Comment votre père, donc Jean-Marc Padovani, saxophoniste jazz, regarde ce parcours et comprend votre musique? Vous n'avez jamais tenté de le faire intervenir parce que le saxophone était très à la mode justement dans le son des années 80 que vous aimez?
Et oui, en fait, il joue tous les saxophones sur les enregistrements
voilà.
Depuis le début.
Depuis le début.
Donc il est un peu dans cette musique aussi quand même.
Là, c'est le volume 1, donc pour Prima Donna. Ça veut dire qu'on annonce le volume 2 pour bientôt.
Et je suis en train de faire le volume 2. Donc il n'y a pas vraiment de date, je crois. Mais en tout cas, pour moi, l'idée de Prima Donna, c'est plus un album j'avais tellement ce désir de faire des chansons avec des chanteuses qu'il n'y avait pas que 5 chansons. Et du coup, pour moi, c'est un vrai album qui sort en 2 temps. Mais...
On peut annoncer d'autres featuring ou d'autres duos ou pas encore?
Non, pas encore.
Pas encore. Non. Personne.
Pas tout à fait, non.
Pas tout à fait. Mais merci, on va se quitter tout de suite avec Bonnie Banane, qui faisait partie de vos choix. Peut-être qu'on la retrouvera justement dans les prochains duos. Elle tourne dans la playlist de France Inter. Bonnie Banane, cha-cha-cha, dans Côté Club.
Capter ton attention au lieu que tu t'énerves. T'énerves pas. T'énerves pas. Yeah. Ramène-moi, ramène-moi. Si je reste, je vais faire des dégâts. Ramène-moi, ramène-moi. Je veux rentrer chez toi. Boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau pas, tcha tcha tcha. Rapproche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha.
Tcha-tcha-tcha, ce sera le mot de la fin, puisque oui, c'est la fin de Côté Club. Merci Pablo Padovani, merci à vous.
Merci.
Je rappelle, Prima Donna volume 1 de Moodoïd est sorti aujourd'hui. Dominique Tarlet, merci à vous. On peut retrouver vos photographies dans le livre Les Rolling Stones et Nelcott aux éditions Le Mot et le Reste. Un autre livre à paraître bientôt, c'est La Villa aux éditions La Galerie de l'Instant, avec une exposition prévue à Nice pour le 19 mai. Marion,
303 clips à découvrir sur notre site, ceux de Ponta Preta, de Streaker et de Météo Mirage.
Côté Club, ce soir, c'est une émission réalisée par Étienne Bertin, à la technique Rémi Sistiaga, programmation Marion Guilbeault, Virginie Rosic, Alexis Goyer et Muriel Pérez aux playlists. lundi, on ne se refuse rien. Du rock, du slam et de la chanson avec Nefché et Catel. Pour vous, Marion ?
Une surprise ?
Voilà, c'est ça. Vous avez tout le week-end pour bosser. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.